Palestine ici, Palestine là-bas. Heureux de vous retrouver. Mabrouk Lazreg à l'antenne. Comité Action Solidarité Caladroit. Donc j'ai l'honneur de recevoir parmi nous ce soir, dans notre émission, mensuelle du mardi soir, Georges Gampel. Georges Gampel qui est membre de l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix. Je l'ai invité aujourd'hui pour parler de Palestine, bien sûr, puisque c'est l'objet de notre émission mensuelle, mais aussi de quelques points à éclaircir par rapport à tout ce qu'on entend quand on aborde cette question de près ou de loin. Donc, Georges, je vais te laisser te présenter, et en même temps, mais de façon succincte, mais en même temps, l'association dont tu représentes.
Bonjour, merci de m'avoir invité. En fin de compte, je pense que nous sommes d'anciens amis sur cette radio, puisque je pense que la première fois que je suis venu ici, ça doit être en 2002, pour parler de la Palestine. On a donc une longue histoire ensemble. Je m'appelle effectivement Georges Gampel. Aujourd'hui, je vais bientôt avoir 83 ans. Je suis juif. Je suis juif français. Je ne viens de nulle part, ailleurs que de Paris. Je le dis parce que, pour aller vite, les juifs français n'ont jamais été historiquement sionistes. Et nous n'avons jamais été concernés à Israël. Il n'y a donc aucun effort de ma part à être antisioniste aujourd'hui, puisque nous ne l'avons jamais été. Nous étions juifs, nous ne pratiquions pas pour beaucoup d'entre nous, mais nous étions juifs et nous tenions à être l'affirmer sans que cette judéité soit nécessaire d'être rendue publique. C'est ce conflit, ou du moins, c'est pas, je m'excuse du terme conflit, c'est cette agression ignoble contre les Palestiniens, cette agression contre nos valeurs, faite par Israël, faite par le CRIF, et faite par les gouvernements français successifs, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui nous oblige aujourd'hui à sortir du bois et nous affirmer juifs pour dénoncer les crimes et pour affirmer notre solidarité avec la Palestine. Avant, nous étions simplement anticolonialistes. Je milite ça fera bientôt 20 ans à l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix. Nous sommes la seule association juive française antisioniste, malheureusement, actuellement en France. Notre combat principal est effectivement combattre le sionisme sous toutes ses formes, et sur la version française, nous en parlons tout à l'heure, participer, je dirais, de façon cohérente et politique à un antiracisme de plus en plus nécessaire, un antiracisme politique, et à mettre en place ce que nous nommons depuis bientôt un an un espace politique respirable.
D'accord. Alors, pour en dire un peu plus sur cette association, où tu l'as dit, elle a 20 ans d'existence.
Elle a plus de 20 ans d'existence, mais sa visibilité au niveau national a à peu près 20 ans, effectivement.
D'accord. Alors, pour donner un peu un fil conducteur à notre discussion, et puis en même temps à ton parcours.
Oui.
Ton militantisme ou ton parcours de militant, il part d'une expérience personnelle, comme il a été souligné dans le document que j'ai sous les yeux concernant quand tu étais parti civil contre le...
Mon expérience personnelle n'est pas participation au procès Barbier en tant que partie civile. Mon expérience personnelle, parce que je suis né avant la guerre, en 1937, mais ma maturité politique date de la guerre d'Algérie. Mon expérience personnelle, bien que je ne sois pas allé en Algérie parce que j'ai été exempt, comme tous les jeunes Français dont les pères ou la mère ou les parents étaient morts de fait des crimes nazis, avec la mention « mort pour la France ». Les jeunes, qu'ils soient communistes, juifs ou autres, dont les parents étaient morts, avaient cette mention dans leur acte de décès. Nous étions exemptés d'aller en Algérie. Nous faisions 36 mois, mais en France.
D'accord. Hein?
Donc, parce que ça, c'est très important. Donc, je ne suis pas allé en Algérie, comme des milliers d'autres de mes camarades. Je suis resté en France. Je suis resté à Paris. J'ai eu une très grande chance, comme ceux de ma génération. Il y avait à Paris un lieu exceptionnel qui s'appelait la librairie Maspero. Mm-hmm. Parce que si la question de la prise de conscience anticolonialiste, c'est chez Maspero que nous l'avons eue, et pas au sein des organisations politiques qui avaient tout trahi. Et nous avons appris, grâce aux livres, aux documents que nous a fournis Maspero et autres, et d'autres organisations qui étaient autour, nous avons trouvé la ligne qui nous a permis d'être anticolonialistes et de dénoncer cette sale guerre. Donc mon engagement politique, qui n'a jamais changé depuis, c'est un anticolonialisme politique, hein, et qui, aujourd'hui, parce qu'on reconnaît de toute façon dans le colonialisme israélien, on y trouve toutes les séquelles de la, jamais réglées de la guerre d'Algérie, en France et là-bas, datent de là. Donc ça, c'est mon engagement politique. Il s'est fait que lorsque Barbie a été arrêté et ramené en France, la question qui a été posée à la France, qui en fait n'avait pas beaucoup de mal à s'engager, puisqu'il ne s'agissait pas de crimes français mais de crimes nazis, il faut rappeler que lors des accords d'Évian, la France a exigé du FLN, des Algériens, qu'ils ne portent pas plainte pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, contre les officiers français qui avaient largement commis des crimes en Algérie. Donc la question du crime contre l'humanité était enfouie dans les accords d'Évian, et seule l'arrestation de Barbie a permis de faire réémerger dans la conscience française et dans les discours français la notion de crime contre l'humanité. À l'époque, je le dis très franchement, je n'ai pas fait la liaison entre la question palestinienne et la Turquie. D'abord parce que le crime tel qu'il était envisagé était sur les bases du procès de Nuremberg. Pas dans la modernité. C'était la suite du procès de Nuremberg. C'était un nazi, un criminel nazi, et il était jugé sur cette base-là, au regard de Nuremberg. Donc, le crime contre l'humanité n'était pas totalement dégagé de sa gang, sa matrice initiale. Mais le procès de Barbie a permis deux choses. Un, évidemment, de condamner cet homme. Mm-hmm. Il était l'auteur de l'arrestation et surtout l'auteur de la déportation de mon père, de sa mort par la suite. Et ce crime, c'est le train du 11 août 44 à Lyon, n'avait jamais été jugé.
D'accord.
Bon, donc dans les crimes qui ont été retenus pour cette constitution, sa responsabilité dans le train du 11 août 44 à Lyon était totalement engagée. C'était un des chefs d'accusation du procès. Donc je suis effectivement partie civile au procès de Klaus Barbie. Les débats qu'il y a eu ensuite en France, après, une fois dégagé de l'émotion et remis, les débats qui sont apparus, et surtout au moment du 20e anniversaire du procès Barbie et des colloques qui ont eu lieu à Lyon, ont mis en lumière que, Oui, on était, la France, les institutions de gauche, la gauche, le CRIF, tout ce petit monde, étaient toujours favorables à parler du crime contre l'humanité, mais surtout au passé. Et de ne pas en montrer la modernité, uniquement par crainte que nous abordions la question palestinienne-israélienne. Et c'est à ce moment-là, je le dis très honnêtement, que j'ai réalisé où était la question et que, au sein de notre engagement dans le JFP, effectivement, la ligne de démarcation entre le crime initial et sa modernité est apparue en pleine lumière.
Alors,
je ne sais pas si je m'exprime bien.
Alors, pour apporter encore un éclairage un peu particulier sur ces notions, crime contre l'humanité, crime de guerre, et le terme aussi qui vient se rajouter à tout ce qui se passe, ou qui s'est passé en Palestine occupée, le terme d'apartheid.
Alors, je voudrais revenir sur la question du crime contre l'humanité. Que le procès Barbier est clair, bien que ce soit, parce qu'il n'y a rien de changé là-dessus, le crime contre l'humanité est imprescriptible. Ça veut dire que les auteurs, le ou les auteurs de ces crimes, jusqu'à leur mort, peuvent être arrêtés et condamnés, traduits en justice et condamnés. C'est pour vous, les jeunes générations, pour nous, l'axe, la boussole de la problématique actuelle du S de BDS, de sanctions, parce que, et là, je parle de ma propre expérience, l'espoir, c'est dans cette imprescriptibilité. C'est-à-dire cette possibilité à tout moment de condamner les criminels et d'affirmer, puisque la justice internationale est là, c'est de s'appuyer dessus pour dénoncer la nature des crimes israéliens. Voilà. Donc, le crime contre l'humanité est notre arme parce qu'imprescriptible. Pour moi, c'est essentiel.
D'accord. Alors, on passe à l'apartheid.
Alors, l'apartheid, comme le crime contre l'humanité, ce sont deux notions qui, toutes les deux, sont dégagées du crime initial dont ils portent le nom. C'est-à-dire, à un moment donné, au moment de l'apartheid au Sud-Africain, et au moment des crimes nazis ou des crimes de Nuremberg, il a fallu les nommer. Et on a mis le mot de crime contre l'humanité pour qualifier, et le mot d'apartheid pour qualifier la nature de la politique sud-africaine. Ces deux termes sont aujourd'hui dégagés du crime initial. Ils ont une modernité absolue. Ils ont été, le nom reste évidemment hein, pour en expliquer la nature. Ils sont dégagés du crime absolu et ils sont modernes. Ils sont modernes et ils se projettent dans le futur. Ils ne sont pas datés. L'apartheid, comme le crime contre l'humanité, qui est un crime militaire, l'apartheid est lui aussi qualifié de crime contre l'humanité. La justice est la même dans les deux cas. La nature n'est pas la même, naturellement. Et dans la question israélienne, il faut bien comprendre que l'apartheid est consubstantiel à l'État, c'est-à-dire aux lois qui structurent l'État depuis sa création, depuis 1948.
On l'a vu avec cette fameuse loi en juillet 2018,
oui.
Sur la loi État-nation.
Oui, c'est ça, mais ça c'est le prolongement, ce n'est pas une nouveauté, ça n'apparaît pas.
Il existait dans des éléments bien avant cette...
Il existe depuis le début. L'apartheid, ce n'est pas l'occupation. L'apartheid, c'est la politique générale israélienne. Et ce sont deux choses complètement différentes. Ce n'est pas l'apartheid qui génère l'occupation. Ce n'est pas l'apartheid qui génère les agressions israéliennes sur Gaza. Ce sont deux structures politiques et juridiques différentes.
Différentes. avec le fameux rapport de Richard Falk.
Alors, Richard Falk a éclairci récemment, enfin récemment, a donné des outils, nous a donné des outils.
Juridique,
mais avant Richard Falk, je signale que le tribunal Russell pour la Palestine avait déjà nommé la politique israélienne d'apartheid. Et cette session du tribunal, c'est la troisième, elle avait eu lieu au Cap. Donc, c'est symboliquement, c'était...
Là. Alors, pour rappeler à nos auditeurs, ces sessions du tribunal Russell sont venues toujours après des agressions militaires qu'il y a eu en 2009 et en 2014.
Le tribunal Russell avait été un tribunal de conscience, qui s'était constitué par l'ordre Russell lors de la Seconde Guerre du Vietnam américain, l'agression américaine au Vietnam. C'est donc les hommes de conscience qui, pour certains, étaient déjà participants au tribunal Russell, faisaient partie, ont estimé que la situation en Palestine nécessitait de réactiver cette structure de conscience internationale citoyenne et, effectivement, ont réanimé cette chose et nous ont apporté des éléments essentiels pour la compréhension de la question palestinienne.
Palestine ici, Palestine là-bas, Mabrouk Lazreg, avec ce soir Georges Gampel, membre de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. Donc dans la continuité de nos discussions, après nous avoir mis en éclairage et en évidence toutes les notions et le parcours et la présentation de ton association, la question aujourd'hui qui est, puisque ça concerne le sujet de notre émission de ce soir, c'est quelle solidarité, en tant que membre acteur de la solidarité avec la Palestine, quelle solidarité apporter à la Palestine ?
La solidarité que nous devons, que les jeunes générations doivent apporter à la Palestine, et d'une urgence absolue. Nous sommes tous, les sociétés occidentales, de vieilles sociétés en passe de s'autodétruire et on voit poindre le fascisme partout en Europe. L'extrême droite est victorieuse et cette extrême droite se nourrit idéologiquement. Il ne faut pas se voiler la face. des crimes israéliens, de l'idéologie israélienne, et des méthodes et de l'outil. Et il y a urgence à une prise de conscience collective, il y a urgence à ce que cette question palestinienne soit prise en main par les acteurs légitimes de la société civile européenne ou française, parce que je ne suis pas là pour parler de l'Europe et de faire un bon exemple de l'Europe, de cette société civile multiconfessionnelle, principalement, on va dire musulmane ou maghrébine, ce sont deux termes que j'utilise qui ne sont pas péjoratifs du tout, mais qui se situent par opposition à la société blanche, humaniste, et qui actuellement, pas plus sur les questions palestiniennes que sur les questions françaises, ont une mainmise absolue sur ces problématiques et en contrôlent les limites et les gens qui peuvent ou non apparaître et parler. Il est donc nécessaire, à mon humble avis, que cet état des lieux cesse, que la jeunesse, on va dire musulmane, quel que soit son âge, mais celle qu'on refuse de voir, prenne en main cette affaire, qui est un prolongement de la question coloniale française et qui doit être regardée à cette aune-là et qui doit être comprise comme une suite, évidemment, et pour la France, dans son soutien à Israël, effectivement, cette question coloniale jamais réglée. Et on peut dire qu'aujourd'hui, Israël est le dernier pays colonialiste européen. Un pays colonialiste qui a, pour des raisons multiples d'un racisme dont on voit actuellement tous les méfaits, qui plaît à l'Occident, en train de se fasciser. Le racisme israélien vis-à-vis des Palestiniens, c'est ce racisme que nous connaissons en France vis-à-vis des Maghrébins, vis-à-vis des musulmans en général, ce racisme vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis de toutes les gens qu'on ne veut pas ni reconnaître comme partie intégrante de notre paysage national et ou qu'on ne veut pas admettre, à qui on ne veut pas donner la place qu'il a leur. C'est donc un jeu, pas un jeu, c'est un enjeu politique majeur. Nous l'avons bien vu, nous l'avons vu et nous le voyons aujourd'hui à travers cette manifestation de dimanche à propos...
J'allais te poser la question, le lien avec donc, l'actualité d'aujourd'hui.
À propos de cette merveilleuse manifestation contre l'islamophobie à laquelle j'ai eu la chance de participer à Paris dimanche, ce sont deux mondes qui s'opposent. Deux mondes à l'intérieur de la société française, ce sont deux mondes qui s'opposent. Un monde qui est même plus sur le déclin, mais qui monopolise encore les médias, l'ensemble du regard, qui ne veut pas voir la société musulmane française, qui ne veut pas l'intégrer dans les combats, et qui, le jour où elle apparaît majeure dans la rue, pacifique et majeure, la décrit, la stigmatise, et lui cherche des poux dans la tête, et essaye par tous les moyens de criminaliser un discours qui était un discours d'une rigueur politique absolue. C'est ce que l'on voit.
Et toi, pour toi, il y a beaucoup de choses similaires à ce qui se passe en Palestine.
Il y a une similitude. Ce sont les mêmes acteurs qui dénoncent. Ce sont les mêmes acteurs qui regardent le camarade du CCIF en se disant que oui, peut-être un ou deux ou même plusieurs serait accointé avec les frères musulmans. On nous connaissons cette chose-là. Avant, c'était le Hezbollah. Avant le Hezbollah, c'est le Hamas. Mais à chaque fois, on brandit un épouvantail. C'est toujours le même. C'est jamais le fascisme. C'est jamais Le Pen. C'est jamais l'extrême droite. C'est toujours du même côté qu'on brandit la chose. Et c'est à vous, les jeunes musulmans, de prendre en main cette affaire et de dire, poussez-vous. ceci nous concerne.
Hein. Alors, il nous reste quelques minutes et oui. Je voudrais aborder avec toi le BDS. Puisque tout à l'heure, tu as évoqué les notions de crime.
Alors,
de
le BDS, guerre, le BDS guerre, est une.
Humanité, avec le terme sanction, oui. Mais dans le BDS émanant de la société civile. Alors,
le BDS a été. C'est un appel des camarades palestiniens, de la société palestinienne dans son entier, en juillet 2005, un an exactement après la condamnation par la Cour pénale internationale de la construction du mur et du régime qui était associé. L'inaction des pays occidentaux face à ça, oui, il me reste quelques minutes, l'inaction des pays occidentaux, et cet appel est à la société civile. C'est un appel inclusif et pas un appel exclusif. C'est-à-dire, c'est toute la société civile, ce n'est pas la partie blanche et humaniste de la société civile contre une autre partie, c'est toute la société civile dans son expression multiple. Donc aujourd'hui, en France, comme partout ailleurs, la campagne BDS doit être prise en main par les premiers concernés, c'est-à-dire les opprimés. La campagne BDS, il y a le B de boycott des produits israéliens, tous les produits israéliens, le désinvestissement pour les sociétés, mais surtout ce qui nous intéresse, nous, et qui est l'esprit fondamental par rapport à l'imprescriptibilité, c'est de nommer les crimes et d'exiger des sanctions. C'est le S. Toutes les autres devraient sanctionner, punir une entreprise en enlevant de l'argent. C'est bien, c'est dans le désinvestissement, mais nous ne sommes pas milliardaires, c'est pas nous qui possédons l'argent. Par contre, nous avons la possibilité
de lever l'impunité à Israël.
À exiger, en tant que, parce que c'est l'avenir du comment veux-je dire, des lois internationales, c'est-à-dire de toutes les lois qui ont été construites après la guerre je suis en train de chercher le mot, c'est ça qui est en danger, c'est le droit international. Et seul le S de sanction et le S de punition, c'est-à-dire de sanctionner les crimes, permettrait de protéger le droit international qu'Israël essaye par tous les moyens de détruire et que la France également, l'Angleterre et autres, veut détruire également. Parce que dans les guerres colonialistes actuellement et impérialistes actuellement, il y a la question que le droit international est bafoué. Donc moi, effectivement, je lance de là où je suis humblement un appel à une mobilisation large, jeune et inclusive.
Eh ben, en tout cas, on a été ravis de te recevoir ce soir parmi nous.
Merci.
Ça a été un honneur.
Non.
Surtout en même temps, quand on aborde toutes ces questions avec l'éclairage et l'expérience que tu as, on en est très très content. Et j'espère que nos auditeurs en seront de même. On sera ravis encore de te retrouver une autre émission.
Quand vous voulez.
Alors peut-être avant de nous quitter, il y avait deux petites infos. La première, c'est vendredi 29 novembre au cinéma Les 400 coups. À partir de 20h, il y a la projection du film Le Char et l'Olivier. Alors, j'avais eu l'occasion le mois passé d'inviter dans ses studios le réalisateur Roland Nurier. Oui. Donc, il sera parmi nous le vendredi 29 à Villefranche. Et à titre d'occasion aussi, pour ceux qui sont de Lyon, comme toi, Georges, moi, j'essaierai d'y aller. Le dimanche 24, il y a une projection d'un film qui relate l'histoire de ce bateau humanitaire turc qui est allé apporter du matériel humanitaire à Gaza et qui s'est fait arraisonner, en même temps attaqué par l'armée israélienne. Le bilan était de plus de 10 morts.
Oui. Mais personnellement, j'étais le juif du bateau français pour Gaza en 2011.
Qui a été dans la même démarche que le bateau humanitaire.
Oui. Alors, je crois que je serai de nouveau à Lyon le 24. J'irai.
Ah, d'accord. On aura l'occasion d'en reparler puis de se retrouver.
D'accord.
En tout cas, ça a été un honneur et puis j'en ai très très content. Et puis je vous dis au mois prochain avec peut-être un autre invité avec une autre thématique, toujours pour la Palestine. Palestine ici, Palestine là-bas. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
Thank you.